qui s'est étendue cette nuit sur une grande partie de la France. Donc ce matin, nous avons des averses entre le sud-ouest et l'Alsace, en passant par l'Auvergne-Rhône-Alpes. Sauf que cette nouvelle perturbation, eh bien, elle donne de la neige à basse altitude. Donc, si vous nous écoutez ce matin et que vous vivez entre l'Auvergne et les Vosges, eh bien, les sols vont blanchir ce matin puisqu'il neige à 400 mètres quasiment en plaine. Les averses sont accompagnées de vent et de grésil aujourd'hui. Donc, ça va être une journée très agitée entre le sud-ouest et le nord-est, là où le soleil résiste ce mercredi. C'est au bord de la Méditerranée où la journée est très agréable, mais on a toujours du Mistral et de la Tramontagne jusqu'à 80 km/h. Ça souffle fort. Dégelé ce matin, moins 3 à Aurillac, moins 1 à Rodez, 3 à Strasbourg, 9 à Perpignan et 6 à Paris. Cet après-midi, comme hier, 7 à 18 degrés.
Merci Anissa Dadi. Bon réveil avec Europe 1. Voici votre journal. Europe 1, il est 5h.
Europe 1, bonjour.
5h-7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Je vais te fumer. Un collégien a prononcé ces mots avant de frapper son professeur en plein cours lundi à Toulouse. Il va être présenté aujourd'hui à la justice. Dans son établissement scolaire, c'est le choc. Reportage Europe 1 dans un instant. Les obsèques aujourd'hui de Philippe à Grande-Synthe. L'enquête avance. 3 suspects interpellés. La famille, de son côté, veut prouver que le jeune animateur social n'avait absolument rien fait de répréhensible. Envoyer les migrants d'où qu'ils viennent vers le Rwanda. Cette décision votée au Parlement britannique provoque une vive polémique. Comment ces expulsions sont-elles censées se dérouler? Explication dans ce journal. Et puis, une nouvelle page à écrire pour Olivier Giroud, le meilleur buteur des Bleus en route pour la Californie. Le journal de 5h, Fanny Marceau. Bonjour Fanny.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Quand s'arrêtera cette vague de violence chez les mineurs? À Toulouse, aujourd'hui, un collégien va être présenté à un juge pour enfants pour avoir frappé son enseignant en plein cours, devant ses camarades. Le professeur choqué a porté plainte, il est en arrêt de travail. Et dans l'établissement qui compte près de 800 élèves, personne ne comprend comment un tel déchaînement de violence a pu se produire. Reportage du correspondant d'Europe 1, Charles L'Huillier.
Ici, une cellule d'écoute a été ouverte car beaucoup d'incompréhensions subsistent encore sur ce jeune de 14 ans issu d'une famille catholique. Sans doute par fanfaronnade, il avait récemment annoncé à ses camarades sa conversion à l'islam, confirme Hakim, l'un de ses amis.
Je sais qu'il s'est converti, il est devenu musulman comme moi, mais je trouve qu'il n'y a aucun rapport parce que sa religion, ça n'a rien à voir avec ce qu'il a fait. Ce qu'il a fait, ce qu'il a fait, c'est tout.
Un ado davantage en quête d'attention qu'en cours de radicalisation et un déchaînement de violence dont il s'est vanté le soir même en lançant un live sur TikTok. Succession d'événements qui secouent aussi les parents de ce collège plutôt tranquille de Toulouse.
Normalement, le collège, c'est un collège tranquille. Là, ce qui se passe, ça fait peur.
Ma fille est bouleversée parce que ce pauvre professeur, il est adorable.
Un professeur dont on ne sait pas quand il recommencera à exercer. L'élève, de son côté, outre son avenir judiciaire, ne réintégrera plus l'établissement. À Toulouse, Charles D'Huillier, Europe 1.
Et pour forcer les adolescents à rentrer dans le rang, les couvre-feux se multiplient, Fanny.
Oui, en Guadeloupe, à Béziers et bientôt à Nice, le maire Christian Estrosi entend mettre en place des restrictions pour les mineurs dès le mois de mai.
À Grande-Synthe, à présent dans le Nord, beaucoup d'émotions aujourd'hui pour les obsèques de Philippe Kopmann.
Puisse ton décès faire réfléchir cette partie de la jeunesse à la dérive, voilà ce qu'a déclaré le maire de la ville. L'animateur social de 22 ans a été battu à mort la semaine dernière. 3 adolescents ont été arrêtés, 2 d'entre eux mis en examen, placés en détention provisoire. Ils assurent avoir tendu un piège à la victime, se faisant passer sur un site de rencontre pour une jeune femme mineure. Philippe aurait pris rendez-vous, ce que les suspects auraient estimé répréhensible. Une version qui, pour les proches de Philippe, salit son honneur et qu'il s'attache à démentir, Lionel Gougelot.
Depuis une semaine, les frères, les proches de Philippe Kopmann rassemblent dans une sorte d'enquête parallèle toutes les preuves, les indices qui démontrent que le jeune homme n'était pas un adepte du site de rencontre Cocoland et qu'en aucune manière il aurait pu solliciter une jeune fille mineure pour des relations sexuelles. Ils ont acquis la certitude que cette nuit-là, Philippe s'est retrouvé au mauvais endroit, au mauvais moment, et que ses agresseurs, malgré ce qu'ils ont dit en garde à vue, se sont trompés de cible. D'ailleurs, l'entourage de Philippe fait valoir depuis quelques jours le témoignage d'un autre homme qui assure être celui qui avait fixé le rendez-vous. Témoignage en cours de vérification par les enquêteurs, en tout cas un élément essentiel pour Kelvin, afin de laver définitivement l'honneur de son petit frère.
On sait que Philippe, c'était une personne en or, c'est une personne toute gentille, qui avait un contact sociable incroyable. C'est pour ça que tout le monde l'aimait bien. C'était pas possible de pas aimer Philippe, c'est ce qu'il faut retenir. Et il faut retenir aussi qu'il partageait son sourire avec tout le monde, il faisait rire tout le monde, et il faut essayer de garder ça, même si c'est très 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 dur en ce moment.
La famille du jeune homme attend donc avec impatience les premières conclusions de l'enquête, avec l'espoir que le souvenir de Philippe ne soit plus entaché.
Lionel Gougelot, correspondant d'Europe 1 dans les Hauts-de-France.
L'actualité internationale à 5h04 sur Europe 1 avec le vote du Congrès américain qui a adopté cette nuit le plan d'aide à l'Ukraine.
61 milliards de dollars pour Kiev avec la promesse de Joe Biden de livrer des armes dès cette semaine. Mais ce plan prévoit aussi des fonds pour Taïwan et pour Israël où la guerre a débuté depuis aujourd'hui 200 jours.
Les élus américains qui ont également voté un ultimatum adressé à TikTok.
Le propriétaire chinois du réseau social ByteDance a un an pour le céder à une entreprise américaine, sans quoi il sera interdit dans le pays aux 170 millions d'abonnés.
Au Royaume-Uni, le vote d'une loi qui prévoit l'expulsion des migrants vers le Rwanda fait couler beaucoup d'encre, Fanny.
Oui, la décision des parlementaires britanniques, largement critiquée par l'ONU, les associations de défense des droits humains et même des églises chrétiennes. Mais Rishi Sunak, le Premier ministre, ne lâche rien. Les avions pourront décoller de Londres d'ici 10 à 12 semaines, en juillet, a-t-il affirmé hier. Alexandre Chauveau, c'est une première en Europe. Et la mise en œuvre de cette décision est scrutée sur le continent.
Oui, il s'agit d'envoyer à Kigali les migrants arrivés illégalement au Royaume-Uni. Ces personnes ne pourront alors réclamer l'asile que depuis le Rwanda, qui aura la charge d'examiner leurs demandes. Le Royaume-Uni délègue donc la totalité de ses responsabilités en matière d'asile à un pays tiers, et ce, contre un chèque de 580 millions d'euros. Alors concrètement, la Grande-Bretagne a réservé des charters et mobilisé plusieurs centaines de juges pour examiner les différents recours des migrants qui seront, en attendant, placés en détention provisoire. L'objectif pour Londres, c'est aussi et surtout de décourager l'immigration illégale. Rishi Sunak, très critiqué par les associations de défense des migrants, vante au contraire un programme de dissuasion permanente, seul capable, selon lui, de casser le modèle économique des passeurs. La loi votée au Parlement s'impose enfin à toutes les jurisprudences et notamment celle de la Cour de justice de l'Union européenne qui avait bloqué les premières expulsions vers Kigali.
Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1.
On passe au sport à 5h06 sur Europe 1 avec du football et ce nouveau défi pour Olivier Giroud.
Le meilleur buteur de l'équipe de France va quitter l'AC Milan cet été. Direction Los Angeles aux États-Unis. L'attaquant de 37 ans va découvrir un nouveau championnat dans lequel évolue notamment Lionel Messi à Miami et retrouver en Californie son ancien capitaine en équipe de France, Hugo Lloris, Cyril de la Morinerie.
Oui, après être devenu l'une des idoles de l'AC Milan, où il a notamment remporté un titre de champion d'Italie en 2022, Olivier Giroud va bientôt connaître son 8e club. Le meilleur buteur de l'histoire des Bleus, 57 buts en 131 matchs, va traverser cet été l'Atlantique. Olivier Giroud retrouvera en Californie son ami, l'ancien capitaine de l'équipe de France, Hugo Lloris, à Los Angeles. Malgré un âge canonique pour le football, il aura 38 ans le 30 septembre prochain. Olivier Giroud n'a pas l'intention de raccrocher. Le Grenoblois a d'ailleurs suivi les conseils de Robert Pires.
C'est ce que je lui ai dit à chaque fois, c'est-à-dire qu'il fallait qu'il joue le plus longtemps possible. Parce qu'en fait, quand on s'arrête, c'est ça qui est le plus compliqué et le plus difficile à digérer. Donc c'est une bonne opportunité pour lui déjà de continuer, de se faire plaisir et puis surtout de découvrir une autre culture et puis un autre championnat.
Mais avant de découvrir Hollywood et Beverly Hills, l'ancien joueur d'Arsenal et de Chelsea espère disputer dans 2 mois l'Euro de football avec les Bleus en Allemagne.
Cyril de la Morinerie.
Merci Fanny Marceau. Très bon réveil à tous. Vous êtes sur Europe 1, il est 5h08.
Et dans un instant, mon cher Alexandre.
Dans un instant, la revue de presse internationale, ma chère Omblin, avec les correspondants d'Europe 1. Nous irons en Corée du Sud.
Absolument.
Mais oui, pendant que nous réfléchissons, nous, en France, à la semaine de 4 jours, eh bien Samsung impose en Corée du Sud à ses cadres la semaine de 6 jours travaillés sur 7 après des résultats en baisse pour l'entreprise. On en parle dans quelques instants. D'abord, les courses avec Thierry Léger sur Europe 1. C'est votre pari gagnant. Bonjour Thierry.
Bonjour Alexandre. Il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Cordemais et mon pari gagnant sera le 705 Général Damelin, trotteur sérieux, maniable et régulier. Il est confronté cet après-midi à un très bel engagement sur un parcours en parfaite adéquation avec ses aptitudes et afin d'en profiter pleinement, son entraîneur Jean-Paul Marmion n'a pas hésité à le déférer pour la première fois des quatre pieds, une configuration qui doit lui permettre de faire un plus et de renouer ainsi avec la victoire. Alors notez bien, pour Cordemais, réunion 1 dans la 7e 20e course, le numéro 5, Général Damelin.
Merci Thierry Léger, on va retrouver vos pronostics du Quintet après le journal de 5h30 sur Europe 1. Merci de nous rejoindre ce matin, c'est Europe 1, bonjour. Dans une poignée de minutes, Omblin Roche, l'histoire dingue d'Anissa Haddadi.
Oui, des histoires dingues d'adultère, puisqu'un site de rencontre a décrété que le 24 avril était la journée, figurez-vous, de l'infidélité.
Oui.
Voilà.
Nous devons aider le continent africain.
To live with us, the European dream.
Good friend of Taiwan.
Europe 1, bonjour.
Merci d'être fidèle à Europe 1. Il est 5h09 et c'est votre revue de presse internationale. Nous partons d'abord en Corée du Sud ce matin. Bonjour Chloé Borgnon.
Bonjour.
Correspondante d'Europe 1 à Séoul. Alors pendant que nous réfléchissons effectivement à mettre en place, à étendre la semaine de 4 jours, il se trouve que les Sud-Coréens font le chemin inverse. De quoi est-il question dans la presse du pays ?
Du choix de Samsung de faire travailler ses cadres coréens 6 jours sur 7. Le Korea Economic Daily annonce que le groupe fait le choix de passer à la semaine de 6 jours pour faire face à une situation d'urgence. Le géant coréen craint l'augmentation des incertitudes commerciales, liées notamment à la perte de valeur de la monnaie coréenne et à la hausse du prix du pétrole. Les cadres de l'entreprise vont donc devoir travailler 6 jours par semaine pour tenter d'enrayer la crise. Certains le font déjà volontairement depuis le début de l'année. Le Korea Herald, quotidien anglophone, s'interroge : est-ce que la semaine de 6 jours peut aider Samsung face à la crise ? Selon l'article, ceux qui s'opposent à ce choix le trouvent daté et inefficace à l'heure où les autres entreprises de la tech choisissent plutôt la semaine de 4 jours.
On part maintenant aux États-Unis avec vous, Aviva Fried. Vous êtes à Los Angeles pour Europe 1. Qu'est-ce qui fait la une des journaux américains ?
Alors, c'est la nouvelle politique d'un restaurant qui met les médias en alerte. Katie LF5 rapporte qu'un restaurant chic du centre de Los Angeles ajoute désormais à toutes les additions des frais de sécurité d'un montant de 4,5% de la note totale. CBS News explique que le restaurant se situe dans un quartier où traînent des gens louches qui peuvent mettre les clients mal à l'aise. Mais le Hollywood Reporter, lui, y voit plutôt une énième déclinaison d'une tendance à rajouter des frais aux additions, par exemple pour les dépenses de santé des employés, frais qui serviraient en fait, selon la publication, à maintenir les marges affectées par la crise économique. Los Angeles Magazine déplore que ces frais supplémentaires fassent encore monter des additions qui atteignent souvent plus de $100 par personne, excluant de fait les plus modestes. Le Los Angeles Times souligne que les législateurs californiens ont d'ailleurs fait passer une loi pour interdire les frais surprises, mais pas sûr qu'elle puisse s'appliquer aux restaurants.
Nous sommes enfin en Turquie ce matin avec vous, Jeanne Joulot. Vous êtes à Istanbul pour Europe 1. Dans la presse, cette date du 24 avril, elle marque en Turquie l'anniversaire du génocide arménien de 1915.
De l'interdiction des commémorations du 109e anniversaire du génocide arménien. Elle devait avoir lieu sur la rive asiatique d'Istanbul aujourd'hui, mais le gouverneur les a interdites pour la troisième année consécutive, nous apprend Yeni Yasham Gazetesi. Ce dernier a profité de la pandémie de Covid-19, durant laquelle aucune commémoration n'a été organisée, pour ensuite ne plus jamais l'autoriser, écrit Bianet, journal dans lequel la plateforme de commémoration du 24 avril, à l'origine de la cérémonie, dénonce une mesure antidémocratique. Le génocide arménien, durant lequel plus d'un million de personnes ont été tuées reste un sujet tabou en Turquie, souligne Herménie Haber. Il n'est toujours pas reconnu, que ce soit au sein de l'AKP du président Erdogan ou du CHP, le principal parti d'opposition.
Merci Jeanne Joulot, merci à nos correspondants. C'était la revue de presse internationale sur Europe 1.
Europe 1, il est 5h13.
Dans quelques minutes, rendez-vous avec les initiatives en France.
Oui, avec ce matin un téléphone pour les enfants et jeunes ados. Il ressemble à un smartphone, mais sans connexion à Internet.
Ça ne va pas leur plaire, ça.
Maintenant, il faut leur faire accepter cet appareil pour communiquer sans être ultra connecté.
Europe 1.
Votre histoire dingue à 5h13, Anissa Haddadi. Alors, on sait, quand on regarde le calendrier jour après jour, chaque jour maintenant a sa journée spéciale.
C'est vrai.
Il y a même une journée des toilettes. Eh bien, il se trouve que depuis quelques... Mais oui, c'est vrai. Il se trouve que depuis quelques années, le 24 avril, aujourd'hui même, est devenu la journée de l'infidélité.
Ouais,
voilà une autre d'insolite, hein, de journée spéciale. On commence à vous connaître, Anissa. Vous avez rassemblé pour l'occasion quelques histoires dingues d'adultère.
Oui, j'aime bien, c'est drôle, même si au fond c'est tragique, hein, ces histoires d'adultère. Alors attention, cette journée de l'infidélité n'a rien d'officiel. Vous savez, il y a la journée contre la pauvreté, la journée de l'amitié, tout ça. Mais là, la journée de l'infidélité n'a rien d'officiel parce que c'est une journée qui a été créée par un site de rencontre extra-conjugale en 2013. Ça fait 11 ans déjà. Et pourquoi le 24 avril ? Bah, tout simplement parce que le 24 avril, aujourd'hui, c'est la Saint-Fidèle.
Bien joué, c'est pour ça. Oh là là.
À cette occasion, je voulais vous raconter quelques histoires dingues concernant la fidélité ou l'infidélité. Hein. Star ou anonyme, découverte ou stratagème pour éviter l'infidélité, ce sujet concerne de près ou de loin presque tout le monde.
Bah, oui. Tout est dans le presque. Hein.
Alors, presque tout le monde, parce que même si on est fidèle, on connaît tous quelqu'un ou un collègue. On a tous une histoire d'infidélité.
Je peux difficilement vous donner tort.
Ah voilà, autour de nous, des amis, des membres de la famille ou des collègues. Et peut-être même certains sont concernés, mais ça c'est une autre histoire. Cette histoire d'une Espagnole qui a d'ailleurs eu une idée très étonnante pour se protéger de l'infidélité. Alors elle fait signer, pas un contrat de mariage, mais un contrat à son petit copain. Voilà, lui a dit, écoute, on va faire un contrat, écoute-moi bien. Tu as une conversation ambiguë avec quelqu'un, c'est 500 euros. Tu as un échange buccal avec quelqu'un.
Un échange buccal, comme c'est mignon.
C'est scientifique.
Oui, c'est ça.
Conversation ambiguë, 500 euros, ça les vaut quand on commence à s'échanger des petits SMS.
Tout est dans l'interprétation de l'ambiguïté. C'est matière.
Non, mais il a le droit de converser avec ses collègues et tout. Mais dès qu'on s'échange des petites choses, voilà, limite 500 euros. Un échange buccal avec quelqu'un, 2000 euros. Là, ça rigole plus. Et une relation sexuelle avec un tiers, hein, une personne ne faisant pas partie du couple, donc 5000 euros. Alors, une partie du contrat prévoit d'ailleurs que l'infidélité doit être avouée sous 15 jours. Sinon, une majoration de 50 euros par jour sera appliquée, bien sûr, à partir du jour de l'infidélité.
C'est d'un romantisme. Hein,
je pense que cette dame a eu quelques soucis avant.
Elle est membre des forces de l'ordre, il y a ce côté un petit peu... Voilà.
Finalement, elle réinvente le divorce pour faute. Hein. C'est rien d'autre que ça. Bon, aux États-Unis, une femme a découvert l'infidélité de son conjoint grâce à sa montre connectée. Ah, les nouvelles technologies, ça change des lettres qu'on s'envoyait avant. Le couple très fusionnel avait évidemment enclenché l'option de synchronisation entre leurs deux montres. Vous savez, on le fait souvent ça dans les couples. On partage un calendrier à deux, un calendrier connecté. Oui. Bon, là, ils ont synchronisé leurs montres et ils ont profité pour partager leurs performances physiques et sportives, leurs calories brûlées. Ils faisaient plein de choses ensemble, sauf qu'un soir... Elle ne voit pas rentrer son petit ami. Et elle se réveille à 4h du matin. Le lit est toujours vide, il n'est pas là. En revanche, les activités physiques de sa montre, elles sont bien actives. Elle comprend donc qu'il ne dort pas. Retour à la maison fracassant. Et là, c'était terminé.
Bon, là, c'est la version de l'acte manqué.
Ah, là, absolument. Là, il fallait retirer sa montre. Bon, on se souvient également de l'histoire très médiatique de la chanteuse Shakira et du footballeur du Barça, Gérard Piqué. Shakira a compris que son mari recevait de la visite pendant ses concerts et ses tournées grâce... aux pots de confiture. Et oui, quand elle rentrait de tournée, les pots de confiture étaient étrangement vides. Ou en tout cas, ils se vidaient rapidement en son absence. Lui ne mange pas de confiture, elle a compris. Donc, que quelqu'un rendait visite
à
son mari.
Ça, c'est le bon mouchard à l'ancienne.
Ah, bien sûr.
On parle de mouchard dans les smartphones, des petits trackers.
Le pot de confiture,
ça marche.
Qui se vide le matin au réveil.
Bon, si elle regardait les pots de confiture, je pense qu'elle avait déjà un doute. Oui, hein, quand on est aux aguets comme ça, on a des doutes. Elle a pris un détective privé. Ses doutes se sont confirmés. Ensuite, elle a sorti un tube où elle se venge de son ex. Bon, selon une récente enquête, c'est sur le lieu de travail que les gens sont les plus infidèles. 36% des participants à l'enquête avouent avoir trompé leur conjoint au travail, ce qui complique les choses, hein. Bien souvent, il faut le reconnaître, hein. Ça complique les relations au travail. Le podium des villes les plus infidèles en France est Paris, Bordeaux et Lille. C'est un podium qui évolue rapidement, je vous rassure. Marseille rejoint ce trio de tête très souvent. Mais attention, tout finit par se savoir un jour ou l'autre. C'est d'ailleurs le thème principal d'une comédie très réussie qui sort aujourd'hui. Ça s'appelle « N'avoue jamais » avec André Dussollier et Sabine Azéma ou « Comment découvrir un adultère bien des années après ».
Vous avez certainement eu l'embarras du choix pour
préciser cette sélection, Anissa. J'aurais pu vous faire des heures et des heures d'histoire.
Merci Anissa.
Merci Anissa, on vous retrouve juste avant le journal de 5h30 avec la météo.
Europe 1, bonjour. 5h, 7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Europe 1, il est 5h18.
Le journal permanent, Fanny Marceau.
Une quinzaine de lignes sur votre fiche de paie au lieu des 55 actuelles. Bruno Le Maire présente aujourd'hui en Conseil des ministres un plan pour simplifier la vie des entreprises et se débarrasser de la paperasse, alors que les normes administratives coûtent 3 points de PIB au pays chaque année. 75% des vols annulés demain à Orly, 65% à Roissy, des compagnies clouées au sol à cause de la grève annoncée des contrôleurs aériens. Le principal syndicat des aiguilleurs du ciel menace déjà de nouvelles mobilisations pour le pont de l'Ascension du 9 au 11 mai. Mathilde Panot devant la justice pour apologie du terrorisme. En cause, un communiqué publié par LFI après les attaques du Hamas contre Israël il y a aujourd'hui 200 jours. La chef de file des députés insoumis dénonce une instrumentalisation grave de la justice visant à bâillonner les expressions politiques. Et puis aux États-Unis, le bras de fer du Congrès avec TikTok. Les élus américains ont voté cette nuit un ultimatum. Le propriétaire chinois du réseau social ByteDance a un an pour le céder à une entreprise américaine, sans quoi il sera interdit dans ce pays aux 170 millions d'abonnés.
Merci Fanny Marceau. 5h19. Bienvenue si vous nous rejoignez. Bon réveil avec Europe 1. Bonjour. Les initiatives en France et cette question ce matin. Comment alléger le poids des écrans, le poids des réseaux sociaux dans le quotidien de vos enfants ou de vos ados? On vous présente une solution pour communiquer sans être ultra connecté.
Bonjour Maëlys Kanzler.
Bonjour Dine.
Merci d'être avec nous sur Europe 1. Vous êtes la fondatrice de The Phone, un téléphone pas comme les autres, du moins pas comme les smartphones que nous connaissons tous, sans cesse connectés à Internet, aux réseaux sociaux. Un smartphone devenu hélas l'un des outils du cyberharcèlement. En quoi le téléphone The Phone est-il différent ?
Alors déjà, c'est une idée toute simple, hein. C'est de revenir aux fonctionnalités essentielles d'un téléphone, à savoir appeler et écrire, tout en le dotant d'un look moderne du smartphone, oui. Et donc ne pas avoir ce look des téléphones à touche qui déplaise fortement aux enfants.
L'aventure de Phone est familiale, hein, Maëlys Kanzler. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Comment vous est venue cette idée ?
J'ai deux garçons qui ont cette année 16 ans et 11 ans, qui donc il y a un an, quand on a imaginé ce projet avec Victor, mon fils aîné, avaient 10 et 15, et les deux sont extrêmement tentés par leur smartphone. Tom, le petit, était bien trop connecté. Et Victor, je trouvais qu'il avait accès à des informations qui étaient trop pessimistes, trop négatives et qui finalement donnent plus d'espoir dans ce que peut apporter la vie positive. Et je me suis dit, pour cette jeune génération, les 10-15 ans, il faut absolument agir. Et donc, enlever le smartphone, leur laisser la consultation des réseaux et Internet uniquement sous accompagnement et surveillance des parents, mais leur laisser quand même la possibilité d'être autonome en appelant et en écrivant des SMS à leurs amis ou à leur famille.
Trop connecté, hein, vous l'expliquez, un outil de cyberharcèlement aussi. L'un de votre fils en a été victime, je crois.
Oui, lui, comme tellement d'autres, c'est tellement facile aujourd'hui, au travers d'un téléphone, un smartphone, d'envoyer des messages harcelants ou d'insulter. Face à face, c'est moins facile. Avec le smartphone, effectivement, ça s'est tellement généralisé. Mon fils en a été victime, parmi, encore une fois, malheureusement, tellement d'autres.
Vous travaillez dans le monde des nouvelles technologies, Maëlys Kanzler, de la téléphonie mobile. Avant de vous lancer, parce que ce n'est pas forcément évident ?
Alors, pas du tout. Moi, je suis entrepreneur depuis la moitié de ma vie, depuis plus de 20 ans, mais dans le domaine du service. Par contre, moi, je suis entrepreneur engagé et je me lance dans des projets depuis plus de 20 ans qui sont destinés à améliorer la vie des personnes à qui je m'adresse. Et c'est vrai que je pense que c'est ce qui rend l'idée tellement simple et pour autant qui n'a jamais été portée par d'autres personnes, parce qu'on s'attaque à des mastodontes et qu'on pense toujours que ce secteur, il ne peut pas être pénétré par des personnes qui ne sont pas du monde de la tech. Et en fait, ce n'est pas si compliqué. Il suffit de trouver des partenaires industriels qui vous accompagnent suffisamment bien, comme nous, on a su le faire depuis un an.
Alors parlons de cet objet, de ce téléphone. Comment fonctionne-t-il ?
Il fonctionne comme un smartphone, en fait, en termes d'esthétique. C'est-à-dire qu'il a un écran tactile. Et ça, c'est bien le plus important pour les enfants. Moi, j'ai vécu le téléphone à touche, donc je saurais réutiliser le téléphone. On appuie trois fois sur la touche A pour faire le C. Mais les enfants de 10 ans, 15 ans, ils n'ont jamais vu ça entre leurs mains. Ce serait comme leur redonner un radiocassette pour écouter de la musique. Impossible de les reconvertir sur du radiocassette. Et ben c'est pareil. Donc là, le téléphone, il est à écran tactile. Mais par contre, il est équipé d'un système d'exploitation qui fait que les personnes qui l'utilisent vont rester dans l'environnement de The Phone et donc totalement coupées d'un accès à Internet. Il fonctionne uniquement par voix et SMS.
Mais il existe encore des téléphones tout simples disponibles dans le commerce. L'idée, donc, c'est que ce téléphone The Phone ressemble à un smartphone pour plaire à tous les jeunes.
Alors, c'est pas un leurre, mais c'est juste de suivre les codes de ce que les jeunes aiment aujourd'hui. Et ce qui existe aujourd'hui, c'est vraiment exclusivement ces téléphones à touche que les enfants veulent même pas montrer dans une cour d'école parce que ça pourrait même lui-même être sujet de harcèlement et de moquerie. Quand on sort son téléphone à touche, tout le monde autour de vous vous dit « mais t'es ringard, pourquoi tes parents ils n'ont pas l'argent pour t'acheter un smartphone ?» Donc là, l'idée, c'était de redonner quelque chose entre les mains des enfants qui ne soit pas considéré comme punitif et qui les marginalise.
On parle de The Phone sur Europe 1 avec vous, Maëlys Kanzler, un téléphone pour communiquer sans être ultra connecté. Pensez-vous que les jeunes seront séduits par un téléphone sans connexion Internet, sans application ?
C'est pas eux qui vont le demander, je pense. Mais quand on a 10 ans et qu'on est en voie d'obtenir son premier téléphone, eh ben heureusement encore que c'est pas les enfants qui décident et que c'est les parents qui vont décider de ce qu'ils veulent bien mettre entre les mains de leurs enfants. Et je pense que la prise de conscience chez les parents est maintenant suffisamment présente pour se dire que leur mettre ce poison-là, un smartphone entre les mains, c'est vraiment prendre un risque dont ils sont forcément conscients maintenant. Donc je ne dis pas que les enfants vont tous sauter au plafond, Mais les enfants sont suffisamment intelligents aussi pour comprendre que c'est pour leur bien qu'on fait ça. Donc les enfants, il faut leur expliquer, les accompagner et leur dire « il y a un âge pour tout ». Et le smartphone, c'est pas à 10 ans, c'est pas à 12 ans.
Oui, vous vous adressez à un jeune public, les jeunes ados qui n'ont pas eu encore entre les mains un smartphone. Vous avez lancé une campagne de financement qui est en train de se clôturer. Quand votre téléphone sera-t-il disponible ?
Il sera disponible dès la première quinzaine du mois de juillet. Et nous lançons les précommandes là, à la fin de ce mois-ci, au mois d'avril. Les précommandes seront disponibles sur notre site thephone.fr, puisque nous vendons le téléphone exclusivement sur notre site internet, de manière à ne pas avoir à financer les marges distributeurs et donc le rendre à un prix le plus accessible possible, en l'occurrence 100 euros.
Merci Maëlys Kanzler. Je rappelle que vous êtes la fondatrice de The Phone. Revenir aux fondamentaux du téléphone, appeler et être appelé, mais avec un appareil dont le look est celui d'un smartphone. Bonne journée.
Merci Ambine, bonne journée à vous.
Europe 1, bonjour.
5h-7h,
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Très bon réveil à tous avec Europe 1, 5h25. N'oubliez pas tous les jours votre rendez-vous avec la libre antenne d'Europe 1 dès 22h15. Olivier Delacroix du lundi au jeudi, Valérie Darmon le week-end. À votre écoute tous les jours et sans tabou, vous souhaitez témoigner, vous laissez vos coordonnées au 01 80 20 39 21, appel non surtaxé. Dans moins de 5 minutes, les infos de 5h30, mais d'abord Omblin, on écoute le chanteur Pierre Garnier.
Oui, son premier single est un immense succès, Pierre Garnier sur Europe 1, ce qu'on était.
Je sais ce que tu vas dire, que c'est pas à cause de moi, mais t'es prête à partir. Et tout est rangé déjà, y'a plus que des affaires à moi. Je vais pas te retenir, j'ai déjà fait trop de fois. Et comme dernier souvenir, je ne veux pas de celui-là, pas celui où tu t'en vas. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder le meilleur de ce qu'on était. Et c'est pas grave si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Pardonné. S'il fallait recommencer, je crois que je ne changerai rien. De nous j'ai tout aimé, même quand ça se passait pas bien. T'avais de l'or dans les mains. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était. Et je sais qu'ailleurs t'iras chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. Je vais garder si tu vas chercher un peu de ce que je ne t'ai pas donné. On se regarde peut-être pour la dernière fois, et sans se parler c'est comme un dernier au revoir. J'aimerais garder le meilleur de ce qu'on était, et je sais qu'ailleurs t'iras chercher.
On manque d'ouvriers spécialisés dans le monde entier. Le métavers peut contribuer à résoudre ce problème. La plateforme de formation en réalité virtuelle de ForgeFX permet aux futurs soudeurs de s'entraîner encore et encore. Ils apprennent ainsi les compétences nécessaires pour débuter et faire évoluer leur carrière. Meta et le métavers ont déjà un impact.
Garnier sur Europe 1 avec Ce qu'on était, son premier album sortira le 7 juin.
Vous êtes sur Europe 1, bienvenue à tous. Dans la prochaine demi-heure, Omblin, la prescription culture, les sorties ciné comme chaque mercredi.
Oui, Laurie Choleva a choisi le film événement Back to Black qui raconte le terrible destin de la chanteuse Amy Winehouse décédée à l'âge de 27 ans en 2011. Votre invité dans un quart d'heure, Alexandre Lemaire.
La ministre déléguée aux personnes âgées, Fadila Khattabi, annonce un plan d'urgence pour les EHPAD publics. La quasi-totalité sont dans le rouge. Alors comment c'est possible à 2000 euros par mois pour une place en EHPAD. La ministre vous répond après le journal à 6h20. Le temps pour ce mercredi, Anissa Haddadi, c'est une nouvelle journée hivernale dans le nord-est du pays.
Oui, dans le nord-est, entre l'Alsace et les Alpes, on a de la neige, hein, cette perturbation qui donne de la neige à basse altitude, dès 300 mètres même, Vosges, Jura. Vous allez voir les sols blanchir dans le nord-est du pays. Alors c'est vrai que tout au long de la journée, on a un ciel très couvert dans ce secteur, avec des giboulées prévues dans la matinée. Dans l'après-midi, le ciel va légèrement s'éclaircir. Et c'est vrai que sur l'ensemble des régions, on aura un ciel partagé entre nuages et éclaircies. Il n'y a vraiment qu'au bord de la Méditerranée que le soleil est généreux aujourd'hui, mais avec toujours du mistral et de la tramontane, ça commence à durer maintenant. Hein. Des rafales de vent jusqu'à 80 km/h. Les températures, toujours dégelées ce matin. Moins 3 Aurillac, moins 1 à Auxerre et Rodez. 0 degré à Besançon, 6 à Paris et Nice et 9 à Brest. Et 7 après-midi, 6 degrés à Belfort, 12 à Paris et 18 à Montpellier et Bastia. C'est stationnaire.
Merci Anissa Haddadi. Très bon réveil à tous avec Europe 1, 5h30.
Europe 1, bonjour.
5h-7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Plus de 200 jours de guerre entre Israël et le Hamas et toujours pas d'espoir de trêve. Aucun camp ne veut céder un pouce dans les négociations. L'opinion publique israélienne s'impatiente. 129 otages toujours aux mains des terroristes. Reportage en début de journal. L'information de la nuit aux États-Unis, le Congrès américain débloque l'aide de 61 milliards de dollars pour l'Ukraine. Première livraison d'armes et de matériel dès cette semaine, promet le président Biden. La vigilance citoyenne à portée de téléphone. Les habitants d'une petite commune de Saône-et-Loire utilisent une application anti-criminalité. Elle s'appelle Je Préviens. Les obsèques de Philippe Kopmann, victime d'un passage à tabac mortel. Elles auront lieu cet après-midi à Grande-Synthe. Deux mineurs mis en examen et incarcérés dans cette affaire. Et puis en foot, Lorient PSG en match en retard de la 29e journée. Paris peut s'offrir dès ce soir un 12e titre de champion de France. 5h30, le journal Christophe Lamar. Bonjour Christophe.
Bonjour Alexandre, bonjour à tous. Bientôt 8 mois de conflit entre Israël et le Hamas et toujours pas le moindre signe de répit en vue. Chaque camp se renvoie la responsabilité de l'échec des négociations sur un possible cessez-le-feu. Le gouvernement israélien parle toujours de lancer une offensive sur Rafah dans la bande de Gaza. Il y a aussi le sort des 129 otages retenus par les terroristes. Nous ferons tout pour les libérer, assure Benjamin Netanyahou, le Premier ministre, toujours sous pression de l'opinion publique israélienne. Reportage Ariane Ménage, correspondante d'Europe 1 à Tel Aviv.
Depuis 6 mois, Rachel et Doron se relaient sur la place des otages. 6 mois que ces deux psychologues d'une soixantaine d'années ont installé ici une tente et quelques chaises. Ils proposent des premiers secours psychologiques.
Les gens viennent nous parler de la situation et nous raconter comment ils se sentent.
Ici, ils rencontrent, semaine après semaine, des victimes directes du 7 octobre, leurs proches ou de simples citoyens, encore choqués par ces massacres et la faillite de l'État ce jour-là.
Je crois qu'il y a encore beaucoup de désespoir. Et puis, le sentiment qu'il n'y a pas de progrès ni de solution. La grande question, c'est comment revenir à la normale dans une telle situation.
Car 200 jours après le 7 octobre, les buts de guerre annoncés ne sont pas atteints. Plus de 130 otages sont toujours détenus à Gaza. S'ajoute aussi la menace de voir la guerre s'étendre sur d'autres fronts. Tel Aviv, Ariane Ménage, Europe 1.
Israël qui va bénéficier d'un nouveau plan d'aide américain de plusieurs milliards de dollars pour reconstituer son dôme de fer, le fameux bouclier antimissile.
C'est une aide contenue dans la colossale enveloppe de 91 milliards de dollars. Elle a été votée cette nuit même par le Congrès américain. L'Ukraine sera le principal bénéficiaire.
Et 61 milliards de dollars de matériel et de munitions en faveur de Kiev. Première livraison possible dès cette semaine, assure la Maison Blanche. Vote salué par le président ukrainien Volodymyr Zelensky.
Nous partons maintenant pour la Saône-et-Loire, dans la petite commune de Sermès. Les habitants de cette commune se tournent maintenant vers une application pour éviter les cambriolages.
Je préviens, c'est le nom de cette application déjà utilisée dans d'autres villes comme à Éric en Loire-Atlantique. À Sermès, le maire est allé plus loin puisqu'il vient de signer carrément un partenariat. Le principe est simple, même s'il fait un peu tousser les policiers, les utilisateurs envoient un message dans lequel ils notent le lieu et l'heure de l'infraction constatée. Reportage Noémie Loisel, correspondante d'Europe 1 en Auvergne-Rhône-Alpes.
Vol de voiture, tentative d'effraction ou encore cambriolage. Sur l'application, les habitants peuvent signaler ces infractions dans un périmètre de 3 km autour de leur domicile.
On envoie en fait comme un SMS en fait, et puis ça va effectivement prévenir toutes les personnes qui ont l'application.
Des alertes qui rassurent Daniel. Alors que cet agent de la circulation travaillait, il a été alerté sur son téléphone d'une tentative d'intrusion dans son garage, ce qui a permis à son voisin d'intervenir.
Le voisin est arrivé, en fait, il n'y avait plus personne. Le fait de, que les gens soient un petit peu à l'affût tout et puis que préviennent, ça peut éviter effectivement le cambriolage. Ouais.
Un sentiment partagé par Fabrice, ce chauffeur de bus est souvent absent de son domicile.
Je pars à 6h30, je rentre à 8h le soir, je fais quand même une grosse journée sans savoir ce qui se passe ici. Même quand je suis en vacances et tout, j'ai jamais vu une voiture de gendarme passer dans le quartier. Donc c'est bien s'il y a quelqu'un qui me dit « attention, il y a quelqu'un chez toi ».
Seule inquiétude, dans ce village, certaines personnes âgées n'ont ni téléphone ni internet et ne pourront pas télécharger l'application. Sermès, Noémie Loisel, Europe 1.
Il est 5h34 sur Europe 1. Les salariés de Duralex, Christophe, vont être fixés sur leur sort aujourd'hui.
Le célèbre fabricant de verre a demandé son placement en redressement judiciaire. Décision du tribunal de commerce d'Orléans attendue dans la journée. Les 230 salariés de l'usine ne semblent pas se faire trop d'illusions. Reportage Guillaume Dominguez.
15h, une fin de quart pour ces ouvriers. La tristesse et l'inquiétude se lisent sur les visages des travailleurs qui poussent le portique blanc à la sortie de l'usine. Quentin, salarié depuis 30 ans, a du mal à cacher son émotion.
C'est très dur pour nous. On ressent le sentiment de dégoût. C'est un travail qui présente beaucoup pour nous. C'est un travail qui est à part, qui vient du cœur. On avait beaucoup d'espoir avec Pyrex. J'espère que ça va continuer.
De l'inquiétude et de la lassitude aussi. Ce placement en redressement judiciaire a comme un air de déjà-vu pour beaucoup. Serge est ouvrier chez Duralex depuis 26 ans.
Lassant et on se demande comment aller gérer cette entreprise parce que c'est la quatrième fois le redressement. Et à un moment donné, on ne comprend plus. Parce qu'en fait, il y a de ça peut-être 2 semaines, on a eu une bonne nouvelle, comme quoi tout allait bien, on avait des ventes, tout ça. Mais en fait, arrivé là, une semaine après, c'était le redressement. Donc faut savoir, c'est mon 5e patron moi depuis 26 ans en une seule société. Donc je pense que ça fait beaucoup quoi.
Tous à présent attendent la décision des juges. L'audience est prévue à 16h au tribunal de commerce d'Orléans.
Reportage à l'usine Duralex de la Chapelle Saint-Mémin, Guillaume Dominguez. La crise dans les EHPAD, le gouvernement annonce le déblocage d'une aide d'urgence de 650 millions d'euros. La somme sera répartie entre établissements publics, associatifs et privés. La grande pagaille annoncée dans le ciel français demain, plus de 60% de vols annulés dans les aéroports français. Attention, il ne s'agit que d'une moyenne. À Orly, par exemple, la proportion de vols supprimés pourrait atteindre 75%. Conséquence de la grève des contrôleurs aériens qui ont déjà déposé un nouveau préavis pour le pont de l'Ascension à partir du 9 mai.
À 3 mois de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques de Paris, le gouvernement tient un plan pour prévenir les risques d'épidémie.
Mais oui, qui dit afflux de touristes dit risque de propagation d'un virus. 15 millions de visiteurs attendus cet été à l'occasion des Jeux. Le ministre de la Santé et la ministre des Sports présideront un comité de pilotage dans la journée. Objectif, s'assurer que tout est prêt sur le plan sanitaire. Louise Salé.
L'heure n'est heureusement plus à la bulle sanitaire des JO de Tokyo de 2021. Mais le risque épidémique est à surveiller de près. Les experts et centres de référence sont mobilisés pendant les épreuves pour lancer, si un cluster se déclare, des batteries de tests, analyser des échantillons en laboratoire dans l'heure qui suit leur arrivée et organiser des mises en quarantaine. Alors le Covid n'est pas le virus qui inquiète le plus. Il faut en fait rester vigilant sur plusieurs fronts. Bruno Lina, virologue au CHU de Lyon.
La plupart des épidémies ont lieu plutôt pendant l'hiver. On a un certain nombre de personnes qui vont venir de l'hémisphère sud, donc qui viennent de leur hiver pour aller dans notre été. Donc il y aura peut-être quelques risques d'introduction de ces virus. On est dans une période estivale où il y aura éventuellement une circulation importante de moustiques qui sont responsables de maladies comme la dengue. Donc c'est plutôt une surveillance un peu diffuse qu'il faudra mettre en place.
Des pièges à moustiques tigres sont installés cette semaine dans la marina de Marseille où se déroulent les épreuves de voile et le risque également de gastro-entérite est surveillé. Les hôpitaux enfin se préparent à accueillir du monde. Plus de lits seront ouverts dans certains services et le nombre de soignants en veille sera augmenté, c'est-à-dire qu'ils pourront être rappelés de leur lieu de vacances en cas de besoin.
Louise Salé. Le football, 3 matchs en retard de la 29e journée de Ligue 1 ce soir. Lorient PSG à 19h. Paris assuré d'un 12e titre de champion en cas de victoire et à condition que Monaco ne s'impose pas face à Lille. Match à 21h, même horaire pour Marseille-Nice.
Merci Christophe Lamar, il est 5h38. Bon réveil avec Europe 1 dans 2 minutes. Omblin Roche, c'est le jour où.
Oui, un portrait ce matin, celui de l'astrophysicien formidable vulgarisateur Hubert Reeves.
Mais d'abord, à bientôt 6h20, les pronostics du Quintet. Bonjour Thierry Léger.
Bonjour Alexandre, direction l'hippodrome de Cordemais en Loire-Atlantique pour ce Quintet, une course aux trois attelés qui réunira 16 trotteurs. Âgés de 7 à 10 ans, répartis répartis sur trois poteaux différents de départ, 2800, 2825 et 2850 mètres, avec un solide favori, le numéro 11, Ibiki de Well, qui possède à l'évidence une première chance, jugée sur ce qu'il a réalisé de mieux. On lui opposera les numéros 5, Y de Ceylan, bien engagé au premier poteau et qui reste sur une excellente deuxième place, obtenue le 30 mars sur l'hippodrome de Laval, 2 Gold Star, facile lauréat le 12 avril à Vincennes et qui sur sa lancée me semble être encore compétitif, au moins pour les places, et 7 Falco du Douai, excellent troisième ce jour-là et idéalement placé à la limite du recul des 25 mètres. Enfin les numéros 10, Ave Dream, 1 Hold Up du Dijon, 13 Galileo Bello et 6 Franklin Part compléteront ma sélection. Mon pronostic, 11, 5, 2, 7, 10, 1. 13 et 6.
On retrouve votre pronostic dès maintenant sur l'appli Europe 1 et sur europe1.fr. Merci Thierry Léger.
Le César du meilleur acteur.
Et puis on essaiera un jour de faire une grande cantine gratos.
Yes, we can.
Serge Gainsbourg, bonjour.
Il n'y a eu qu'un vainqueur. L'espoir.
Europe 1. 6h20, le jour où l'histoire racontée à travers les archives d'Europe 1.
Bonjour Lord Autriche.
Bonjour à tous.
Hubert Reeves, il nous a quittés il y a quelques mois seulement. Eh bien, on revient ce matin sur le parcours de l'astrophysicien. Il avait ce talent rare, oui, du vulgarisateur qui vous fait comprendre l'incompréhensible, en quelque sorte. Ses livres, ils se sont vendus à des millions d'exemplaires. Alors, un 24 avril, comme aujourd'hui, c'était en 2008, Hubert Reeves publie ses mémoires. Il aura très souvent été au micro d'Europe 1 pour transmettre justement sa passion de l'univers et de la science en général.
Oui, c'est un conteur malicieux qui parle des étoiles et des planètes avec l'œil pétillant au-delà de son regard bleu envoûtant et de sa longue barbe de savant. Ses mémoires, Hubert Reeves était venu en parler sur Europe 1 en 2008, livre intitulé « Pas le temps, mais pas le temps de quoi ?»
Ben, pas le temps de savoir tout ce que je voudrais savoir, d'épuiser ma curiosité sur tout ce qui m'intéresse dans le monde des sciences et tout ça.
Dans son Canada natal, c'est en lisant l'Encyclopédie de la jeunesse, un livre d'astronomie en 10 tomes offert par son père, qu'il trouve sa vocation à l'âge de 8 ans. Il fabrique ensuite un télescope pour observer les étoiles. Interview sur Europe 1 en 1999.
On avait une maison de campagne près de Montréal où on allait voir les couchers de soleil, on allait voir les étoiles la nuit. Il y avait comme ça une vénération de mes parents. Et ça, c'était important, je le dis pour tous les parents. Communiquez à vos enfants le plaisir que vous avez à être dans la nature. Vous leur faites un grand cadeau qui sera bon pour le restant de leur vie.
Cette humilité, c'est aussi ce qui lui vaudra son succès. Sa notoriété explose au début des années 80 après un passage dans l'émission Apostrophe de Bernard Pivot où les Français découvrent sa bonhomie, son accent irrésistible. En 1969, quand l'homme pose le pied sur la Lune, Hubert Reeves a 37 ans. Je lui ai demandé il y a quelques années pour Europe 1 ce qu'il aurait dit, les mots qu'il aurait prononcés s'il avait lui-même posé le pied sur la Lune. Écoutez sa réponse.
Mais là, vous me posez une colle. Je ne peux pas me mettre dans cette situation. Ce n'est pas assez réaliste pour moi. C'est trop distant, c'est quelque chose de tellement étrange, cette idée de marcher sur la Lune. Je ne sais pas ce que j'aurais dit.
Et à quelle découverte Hubert Reeves rêvait-il d'assister de son vivant ? Réponse 1.
Ben, une des plus intéressantes, ce serait de savoir s'il y a d'autres planètes habitées et d'autres Européens quelque part dans d'autres galaxies.
D'autres Européens dans d'autres galaxies. Hubert Reeves rêvait de diriger un orchestre aussi, il a pu le faire quelques fois. Son idéal aurait été de jouer du violoncelle, d'interpréter les quatuors de Schubert, peut-être dans une autre vie, disait Hubert Reeves.
Mais oui, d'autres Européens dans d'autres galaxies. Vous savez, si vous croyez au multivers, il y a une autre version de vous quelque part. Oui. Je ne sais pas
qui
ce qu'il est en train
violon,
de faire. L'autre Ambine Roche.
Merci. Très doué au violoncelle, oui. Formidable.
Le parcours incroyable d'Hubert Reeves, retracé grâce à vous, Lord Autriche. Merci, réalisation Sodor. Sébastien Guidis, à demain avec Le Jourou sur Europe 1.
Et on joue avec Le Jourou à présent dans cet univers.
Oui,
maintenant,
celui-ci.
Vous allez pouvoir essayer de remporter une croisière de 5 jours avec Croisi Europe pour découvrir les trésors vinicoles du sud-ouest, du côté de Blaye, Libourne, Saint-Émilion. Et sachez qu'à bord, tout est compris. Hein, on va prendre soin de vous. La cuisine est raffinée, évidemment. Les boissons, les animations. Il y a les visites guidées, les excursions. Voilà, c'est un vrai moment d'évasion qu'on vous offre. Rendez-vous sur le site croisieurope.com.
La question du jour, elle est très simple, chers auditeurs. Où est né Hubert Reeves ? Réponse A, à Paris. Réponse B, à Montréal.
Vous envoyez par SMS croisière au 739-21, 2 fois 75 centimes hors coût du message et vous répondez à la question du jour.
Bonne chance à tous, bientôt 6h moins le quart. Europe 1, bonjour, on est mercredi, dans moins de 10 minutes, les sorties ciné, Omeline.
Oui, avec Laurie Choleva qui nous emmène voir Back to Black, le biopic sur la chanteuse britannique Amy Winehouse, et avec Nicolas Caro. Eh ben tiens, on va rester en Angleterre pour lire le polar Après minuit de Gillian McAllister.
5h, 7h.
Europe 1, bonjour. Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Europe 1, il est 5h43.
On se penche ce matin sur Europe 1 sur ce nouveau cri d'alarme des maisons de retraite. Cet appel à l'aide, il vient des EHPAD du secteur public. Appel relayé par la Fédération hospitalière de France. Après une vaste enquête, la FHF pose le diagnostic. 85% des EHPAD publics sont en déficit. Ils sont dans le rouge. Les professionnels du secteur demandent d'urgence une aide financière de l'État, faute de quoi, assure-t-il, eh bien, des EHPAD mettront cette année la clé sous la porte.
Et pour en parler, vous recevez Alexandre Lemaire, la ministre déléguée Fadila Khattabi, en charge des personnes âgées.
Bonjour Fadila Khattabi.
Bonjour.
85% des EHPAD publics en déficit, on n'avait jamais vu ça, ça veut dire la quasi-totalité des maisons de retraite publiques dans le rouge. Hein. Vous allez répondre à leur appel à l'aide.
Bah écoutez, nous avons toujours été au rendez-vous. Effectivement, dès que j'ai pris mes fonctions, j'ai été alertée par certaines difficultés, des problématiques de déficit. Mais ce que j'aimerais, permettez-moi quand même de le dire, c'est que l'État a toujours été au rendez-vous. Depuis 2019, plus de 4 milliards. Nous sommes passés de 8,5 milliards à 12 milliards à destination des EHPAD. Donc je veux dire, l'État est présent. Et donc, effectivement, ce qui est prévu dans le cadre de la suite budgétaire, c'est plus de 5% pour les EHPAD publics et 3% pour les EHPAD privés.
Vous augmentez de cet ordre le financement des EHPAD
publics,
en fait, 5%.
Oui, parce que... Voilà, de 5%, en sachant que il y a 3% donc pour tout le monde, oui. Et puis il y a 2% supplémentaires pour les EHPAD publics, dans la mesure où cela comprend les mesures, vous savez, les astreintes de nuit, les revalorisations salariales pour, oui. Pour effectivement les professionnels qui interviennent.
Donc ce qui représente une enveloppe de quel montant ?
Eh bien, de 650 millions d'euros.
650 millions d'euros pour les EHPAD publics, ce n'est pas la première enveloppe, effectivement, hein, l'été d'urgence, hein, j'entends, puisque l'été dernier déjà, le gouvernement avait déjà débloqué 100 millions d'euros. Visiblement, ça n'a pas suffi. On a l'impression que ce sont des pansements très éphémères qui se succèdent.
Non, il y a eu effectivement un fonds d'urgence qui a été consommé au regard des difficultés que connaissent les EHPAD. Et aujourd'hui, c'est le budget. Donc chaque année, il y a un budget qui est alloué aux EHPAD. Et ce budget, donc, il est prévu 5% d'augmentation, comme je vous l'ai expliqué, pour le public et 3% pour le privé. Voilà. Mais ce qu'il faudrait savoir, c'est que les difficultés au niveau du financement, parce que c'est assez complexe à rentrer dans la technicité, il y a trois types de financement à destination des EHPAD. Il y a la partie qui relève de l'État, c'est-à-dire le soin, les médicaments, les professionnels de santé, infirmiers, aides-soignantes qui interviennent dans les EHPAD, cela relève de l'État, et c'est la partie soins qui représente à peu près 40% aujourd'hui. Et puis il y a le reste, c'est-à-dire la dépendance, qu'on appelle par exemple les protections, qui relève des départements, tout comme l'hébergement relève des résidents. C'est la raison pour laquelle moi je propose, et j'ai lancé un appel à candidature au département, de fusionner la partie soins qui représente 40% et la partie dépendance qui représente 15% pour plus de simplicité, lisibilité.
C'est-à-dire que l'État reprendrait en main le financement des EHPAD sur la partie dépendance, hein, qui est donc actuellement dans les mains des départements. Qu'est-ce que ça changerait pour les Français, Fadila Khattabi ?
Bah déjà, ça permettrait, puisque j'entends aussi les départements qui disent qu'ils sont aussi en difficulté, ça permettrait aussi, j'allais dire, de répondre à cette difficulté.
Soulager les dépenses sociales des départements.
D'une certaine façon, oui, parce que l'État reprendrait à son compte la partie dépendance. Et puis, ça simplifierait aussi un petit peu les choses, soit indépendance en une unité. Aujourd'hui, on a trois financements, même les Français n'y comprennent rien. Donc, il faut aussi à un moment donné de la simplification.
La question que les Français se posent, comment la plupart des EHPAD publics, en tout cas, peuvent se retrouver en déficit lorsqu'on sait combien coûte une place en maison de retraite ? Je crois qu'on est à 2050 euros par mois en moyenne. Comment c'est possible ?
Oui. En fait, si vous voulez, aujourd'hui, les EHPAD, depuis, j'allais dire, la crise sanitaire, le scandale Orpea, a mis en difficulté les EHPAD sur le plan également financier, parce que le taux d'occupation a baissé. Aujourd'hui, on est à peu près à 94% d'occupation. Et donc, quand le taux d'occupation n'est pas, j'allais dire, plein et entier, automatiquement, à 100%, pour atteindre l'équilibre, en fait, il faudrait au moins à plus de 98-99%, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.
Évidemment, à 2000 euros par mois à la place, les EHPAD, il n'est plus question d'augmenter les tarifs. Il reste quoi ? On ne va pas encore rogner sur le personnel, la qualité des soins et des repas ?
Pas du tout. Et d'ailleurs, vous ne pouvez pas dire qu'on rogne sur le personnel, puisque la partie soins qui relève de l'État, justement, le personnel, les infirmières, les aides-soignantes, la partie aussi les médicaments, etc., n'a fait que croître, puisqu'encore une fois, l'État, depuis 2019, a mis plus de 4 milliards. Nous sommes passés de 8,5 milliards à 12,5 milliards. Donc l'État est là et bien présent.
Les difficultés financières des EHPAD, est-ce qu'elles ne sont pas dues également au vieillissement de la population ? On voit que les résidents qui entrent en EHPAD en moyenne sont de plus en plus âgés. Ils ont logiquement besoin de soins plus importants, Fadila Khattabi.
Tout à fait, vous avez raison. C'est vrai que à la fois, les EHPAD doivent aussi se transformer parce que les personnes qui résident dans les EHPAD souhaitent être comme à la maison. Mais en même temps, au regard de la population accueillie, effectivement, on a besoin d'un accompagnement renforcé, on a besoin d'un peu plus de soins. Et dans la mesure où aujourd'hui c'est beaucoup plus du soin, c'est la raison pour laquelle donc je tends la main au département et que j'ai lancé un appel à candidature pour fusionner la partie, la section soins qui relève de l'État et la partie dépendance qui relève des départements. Puisque, comme vous le savez, la compétence personne âgée est partagée entre l'État et les départements.
Est-ce que l'État est au rendez-vous de cette bombe démographique qui est devant nous, qui est celle du vieillissement de la population, précisément ? Je rappelle que le nombre de Français de 75 à 84 ans va augmenter de moitié d'ici à 2030. On voit l'urgence de répondre aux défis du vieillissement de la population française.
Vous avez raison, et c'est vraiment toute ma tâche et ma mission, justement, c'est de relever les défis de demain. Vous avez raison, nous allons être 4 millions de personnes dépendantes d'ici une vingtaine d'années. Aujourd'hui, on a 1 million déjà de personnes dépendantes. Donc, il faut à la fois sauvegarder nos EHPAD, mais également, il y a des personnes qui sont dépendantes et qui souhaitent rester chez elles ou dans des résidences autonomie, et pour lesquelles il va falloir aussi apporter toute une des services de qualité, des services d'accompagnement, des services aussi de soins. Et c'est tout ce que nous sommes en train de mettre en œuvre, notamment par exemple les services à domicile et les services soins infirmiers, qu'on essaie effectivement de faire en sorte qu'elles travaillent, toutes les équipes travaillent ensemble, de coordonner l'offre de soins et d'accompagnement dans les territoires pour que demain, ces personnes puissent accompagner de manière qualitative les personnes à domicile.
Fadila Khattabi, les débats portent en ce moment sur l'aide à mourir voulue par Emmanuel Macron. Que deviennent les promesses présidentielles sur le bien vieillir ? Il y avait une loi de programmation sur le grand âge en chantier. Où est-elle passée ?
Écoutez, concernant la loi de programmation, effectivement, elle avait été inscrite par le biais d'un amendement dans la loi Bien vieillir, qui a été promulguée et qui apporte un certain nombre de réponses. Et la véritable question que nous devons aussi avoir avec les Français, c'est le sujet de la gouvernance. On le voit bien aujourd'hui avec les EHPAD. Et puis, bien sûr, il nous faut également avancer donc sur la gouvernance et sur le financement. Le financement est aussi la question majeure que nous devons avoir avec les Français. Il y a bien sûr la partie qui relève de la solidarité nationale. Et bien sûr, moi, je tiens absolument à ce qu'on accompagne les personnes qui ont besoin de la solidarité nationale. Et puis ensuite, ce qui relève, où mettons-nous le curseur dans le cadre de l'accompagnement financier de la dépendance ? Comment on finance ce cinquième risque ?
Fadila Khattabi, ministre déléguée aux personnes âgées. Je rappelle cette information que vous venez de nous confirmer ce matin sur Europe 1. Le gouvernement va débloquer 650 millions d'euros en urgence pour les EHPAD publics qui sont donc confrontés dans leur grande majorité à des déficits records. Merci. Fadila Khattabi.
Je vous en prie, au revoir.
Europe 1 bonjour, 5h, 7h.
Alexandre Lemaire, Omblin Roche.
Bienvenue si vous nous rejoignez ce mercredi matin sur Europe 1. Les sorties ciné du mercredi dans un instant. Ce sera juste après le journal permanent à 6h-10, Christophe Lamarre.
Les obsèques de Philippe Kopman, victime d'un passage à tabac mortel, auront lieu cet après-midi à Grande-Synthe dans le Nord. Deux mineurs sont mis en examen et incarcérés dans cette affaire. Garde à vue prolongée pour un troisième suspect. Grande pagaille annoncée dans les aéroports français demain. Plus de 60% de vols annulés. Il ne s'agit que d'une moyenne. À Orly, la proportion pourrait atteindre 75%. 15%, conséquence de la grève des contrôleurs aériens qui ont déjà déposé un nouveau préavis pour le pont de l'Ascension à partir du 9 mai. Volodymyr Zelensky salue la décision du Congrès américain après le déblocage de l'aide de 61 milliards de dollars en faveur de Kiev. Les premières livraisons de matériel militaire pourraient avoir lieu dès cette semaine, promet le président Joe Biden. Et puis le football, Lorient PSG en match en retard de la 29e journée. Paris peut s'offrir un 12e titre de champion de France dès ce soir.
Merci Christophe Lamarre. À suivre les infos de 6h dans un peu plus de 5 minutes sur Europe 1.
Europe 1, bonjour, bon réveil, il est 5h53, votre prescription culture.
Et d'abord votre conseil lecture du jour, bonjour Nicolas Caro.
Bonjour.
Vous avez pour nous ce matin un bon thriller, nous avez-vous dit, psychologique et britannique.
Et ils sont forts dans le genre, ça s'appelle Après minuit, c'est chez Sonatine, spécialisé aussi dans le domaine, et c'est du efficace, du addictif, vous allez voir, ça se passe à Liverpool, enfin dans une banlieue, juste à côté, vivent dans une maison à 2 étages, Jane et Kelly, un couple de Quadra. Ils se sont rencontrés il y a longtemps. Ils ont eu un enfant jeune. Todd a 18 ans maintenant. Le temps passe vite. Pour Jane, la mère, c'est encore son petit bébé. C'est vrai que 18 ans, c'est encore un gamin, mais il a le droit de sortir.
Oui, et ça inquiète la maman.
Et oui, il vit encore chez ses parents, donc en général, tant qu'il n'est pas rentré, Jane ne dort pas, elle attend. On peut comprendre, elle traîne dans la maison, elle regarde beaucoup par la grande fenêtre qui donne sur la rue, c'est ce qui lui avait plu quand ils ont acheté la maison, cette grande fenêtre. On ne voit pas bien, il y a la bruine d'octobre, on est le 29 octobre, c'est le changement d'heure cette nuit, tiens. Et puis, ah, voilà, pile au moment où son téléphone passe de 1h59 à 1h, voilà Todd, un ado dégingandé, elle sourit en le regardant, il avance décidé dans la nuit, mais tout à coup il s'arrête, il a l'air de regarder quelque chose, un homme passe à côté de lui, mais qu'est-ce qui se passe? Un couteau, mon Dieu! Jane crie, Kelly, son mari, sort de sa chambre en peignoir, les deux courent dans la rue, il y a du sang partout.
Ah oui, donc il est donc blessé?
Oui, grièvement. Mais l'inconnu, pas Todd, puisque c'est Todd, cet ado gentil, sans histoire, qui l'a poignardé. Ils appellent les secours. Jane essaye de sauver l'homme blessé. Elle regarde son fils. En même temps, elle veut comprendre. Et Todd lâche seulement qu'il n'avait pas le choix. La police arrive, l'embarque, les parents suivent. Jane est avocate, même si elle n'est pas pénaliste. Et surtout, c'était pas un client, c'est son fils. Les policiers les renvoient chez eux de toute façon. Bref, le cauchemar, l'horreur. Le lendemain matin, 8h, Jane ouvre les yeux. Elle entend du bruit dans la chambre de son fils. Todd est là. Elle lui demande ce qu'il s'est passé. Mais il n'a pas l'air de comprendre de quoi elle parle. Kelly non plus d'ailleurs. Comme si rien ne s'était passé la veille au soir. Je vous la fais courte. C'est une boucle temporelle. Jane s'est réveillée la veille de l'agression. Et ensuite, elle vadrouille dans le passé. Et bien entendu, elle doit comprendre pourquoi son fils en est arrivé là et comment empêcher ça. Vous ne le lâcherez plus et vous continuez de le lire après minuit.
Après minuit, donc, c'est le titre du roman de Gillian McAllister. Merci Nicolas.
Place aux sorties cinéma sur Europe 1 avec Laurie Choleva.
Bonjour Laurie.
Bonjour Amblin, bonjour Alexandre, bonjour à tous.
Dans la série des biopics, ces films biographiques, eh bien voici un très attendu qui arrive aujourd'hui sur les écrans.
Et oui, vous reconnaissez cette voix. C'est la voix d'Amy Winehouse, la plus grande soul woman des années 2000, décédée d'une overdose. À l'âge de 27 ans, eh bien, la réalisatrice de 50 nuances de Grey, Sam Taylor Johnson, l'a fait revivre dans un biopic où elle s'intéresse à la création de cet album, Back to Black, et puis surtout son histoire d'amour toxique avec son compagnon Blake Fielder Civil.
J'écris pas des chansons pour être célèbre. J'écris des chansons parce que je veux transformer le mal en bien.
Et le film a vraiment pour but de défendre les accomplissements artistiques de la chanteuse plutôt que de délivrer un récit centré sur son statut de victime. On en apprend plus aussi sur son histoire fascinante, sur les particularités de son enfance et puis son adolescence dans la banlieue de Londres. Tout ça sous les traits de l'actrice Marissa Abella, qui est absolument incroyable, qu'on a vu dans Barbie. Elle est troublante même, elle interprète d'ailleurs toutes les chansons du film.
Ce film Back to Black sur la chanteuse Amy Winehouse qui fera également l'objet de la partition à 6h20
tout à l'heure sur Europe 1. Mais oui, avec vous tout à l'heure,
on écoutera Amy Winehouse. Laurie, vous nous parlez également cette semaine de l'incroyable histoire vraie de deux frères.
Oui, c'est bouleversant, elle est folle cette histoire. Frère, c'est le titre du film d'Olivier Casas qui revient, comme vous venez de le dire, sur une histoire vraie, celle de Michel et Patrice de Robert, deux frères de 5 et 7 ans abandonnés par leur mère en 1948. Et qui ont vécu seuls dans la forêt pendant 7 longues années. Ils sont demi-frères et pourtant, on pourrait croire qu'ils sont jumeaux. On voyage entre le passé, le présent avec Mathieu Kassovitz et Yvan Attal qui interprètent donc les deux frères à l'âge adulte et qui sont liés à jamais.
C'est étrange d'avoir une partie de son être qui vit en dehors de soi. juste un demi-frère. Et pourtant, c'est la moitié qui m'a permis de rester en vie et de dépasser mes 6 ans.
Depuis qu'on est parti de cette cabane, plus rien n'a de saveur. Je crois après quelque chose qui ne reviendra pas.
C'est une histoire tragique forcément, mais à la fois magnifique aussi pour cette relation aussi forte, si fusionnelle entre ces deux garçons, ces enfants sauvages comme on les appelle. Et puis des décennies plus tard, ils ont réussi leur vie, mais ils n'hésitent pas à tout quitter pour se retrouver au bout du monde ensemble. C'est vraiment cet amour fusionnel que le film célèbre. Et puis c'est un film qui pose aussi beaucoup de questions sur l'enfance et sur les relations humaines.
Merci Laurie Choleva.
Et on vous retrouve dans votre émission On Clap, hein, c'est tous les samedis sur Europe 1, 19h-20h.
Il est bientôt 6h, mercredi 24 avril. Merci d'avoir choisi Europe 1. La météo d'Anissa Dadi dans un très court instant.
À 6h40, votre interview éco, Alexandre Le Maire.
Comment simplifier la vie des patrons? Bruno Le Maire présente ce matin son projet de loi, des mesures pour alléger les normes. Alors les chefs d'entreprise n'osent plus vraiment croire aux promesses. Ils croulent toujours sous les règles. Est-ce que la vie des patrons cette fois va changer? Jean-Hugues Duménil va nous rejoindre et nous répondre. On va regarder concrètement avec lui les mesures du projet de loi. Jean-Hugues Duménil, secrétaire général de la CPME. Rendez-vous 7h20 sur Europe 1.
Et puis ne manquez pas le pressing, la revue de presse d'Europe 1 Bonjour, ce sera juste après le journal.
Avant le journal de 6h, le temps pour ce mercredi, Anissa Dadi. On a encore des températures négatives ce matin.
Moins 3 à Aurillac, moins 1 à Rodez et à Auxerre, 0 degré pour Besançon et Cahors, 1 petit degré à Clermont-Ferrand, Limoges et Belfort, 3 à Chambéry et Strasbourg, 6 degrés à Nîmes, 7 à Paris, Nice et Montpellier et 8 degrés à Marseille. Cet après-midi, les températures sont assez proches de celles que nous avons eues depuis lundi, 6 degrés à Belfort, 8 à Charleville-Mézières et Nancy, 11 degrés à Dijon, 12 à Paris-Clermont.